Et lors du journal de 8h, nous étions en direct avec Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, qui évoquait pour nous et qui nous dressait la situation au nord et à la frontière donc israélo-libanaise. On en parle aussi, mais d'un point de vue géopolitique, avec Daniel Habert au micro, toujours, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Daniel Hébert, depuis le 7 octobre, nous analysons la situation géopolitique en Israël, et notamment avec cette guerre qui fait rage. Mais maintenant, c'est le Nord qui nous préoccupe. Que se passe-t-il au Nord ?
C'est une bascule. C'est une bascule. C'est-à-dire, on est en train de changer de centre d'intérêt de Gaza au sud, au Hezbollah vers le nord, et derrière le Hezbollah, c'est l'Iran. C'est ça qui est en train de se basculer. Pourquoi ? Parce que pendant 9 mois, on s'est focalisé sur Gaza, les morts, les destructions, et surtout la guerre médiatique, les fake news, les accusations sur Israël. Mais tout ça n'a pas empêché Israël, finalement, de briser véritablement les capacités de nuisance militaire du Hamas. Par contre, Israël n'a pas obtenu une victoire finale. Il n'y a pas cette visibilité de la victoire, il n'y a pas la libération des otages. Et donc, on est réduit à imaginer une solution négociée. Elle est en cours, on en parle au fond tous les week-ends. Elle ne se passe jamais. Et vous savez, l'analyse que je fais, c'est que au fond, le Hamas a jugé qu'il a beaucoup à gagner à prolonger le conflit. Parce que ça ne lui coûte rien, ça lui coûte juste des vies humaines de Gazaouis dont il se moque, et ça permet de faire souffrir Israël un peu plus. Et si vous voulez, pour toutes ces raisons, les Israéliens et les Américains ont conçu autre chose, c'est assez apparent, qui est premièrement, et c'est ce que j'appelle la bascule, premièrement, les Américains laissent Israël faire ce que Tsahal a besoin de faire à Gaza. Simplement parce que aujourd'hui, on n'est plus obligé de bombarder massivement. On peut se contenter d'opérations très ciblées. On voit bien surtout que ce que fait Tsahal à Gaza en ce moment, c'est la destruction des infrastructures pour préserver un retour du Hamas dans l'avenir. Donc, les tunnels, les fabrications de roquettes. Et au fond, Américains et Israéliens sont en train de se parler beaucoup de la suite. Parce que vous le disiez, hein, le Hezbollah attaque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Iran, qu'on a vu à un moment donné au mois d'avril, puis qui s'est recaché derrière ses filiales, est en train d'actionner très habilement toutes ses filiales. Alors, il y a le Hezbollah, il y a les milices. On voit beaucoup d'activités en Cisjordanie, où là, vous avez des milices du djihad islamiste et du Hamas déjà, qui s'est déjà redéployé en Cisjordanie pour faire de la Cisjordanie, au fond, le nouveau Gaza, le prochain Gaza. C'est ça qui est en train de se jouer. Et donc, il se joue en ce moment en vis-à-vis d'Israël ce qu'on appelle une guerre d'attrition, en anglais, ce qui veut dire une guerre d'usure. Et au fond, habilement, l'Iran dit « je vais prolonger le conflit à bas bruit pour qu'Israël ne déclenche pas un conflit massif, mais ça use les capacités économiques d'Israël, ça augmente les colères des Israéliens contre leur propre gouvernement. Ouais, j'obtiens beaucoup de résultats positifs pour moi, dit l'Iran, si je fais comme ça. » Et voilà la situation de bascule dont je vous parlais.
Daniel, vous avez évoqué cette fameuse guerre d'usure. Que doit faire Israël face à cela ?
Israël ne peut pas accepter cette guerre d'usure. On a connu dans le passé à l'Égypte et ça s'est transformé en guerre. Enfin, on peut pas prolonger comme ça le conflit parce que c'est trop coûteux, simplement, sur l'économie. Aujourd'hui, l'économie d'Israël résiste, mais elle peut pas résister encore très longtemps. Et puis, dépenser des dizaines de milliers d'euros pour abattre un drone qui en vaut 1000, on voit bien que le calcul économique est très intelligent du côté de nos ennemis, mais qu'on peut pas le prolonger. Alors, il y a deux options aujourd'hui, dont j'ai déjà parlé, mais que je rappelle. La première, c'est l'option favorisée par les Américains, c'est de trouver quelque chose pour obliger l'Iran et le Hezbollah à cesser tout ça. Donc, il s'agit au fond pour les Américains de se réimpliquer dans le Moyen-Orient, ce que au fond ni Obama voulait, ni Biden, qui est le fidèle disciple d'Obama, voulait. Mais là, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, les Américains sont revenus en Europe avec l'Ukraine. Ils sont déjà revenus en aidant Israël, mais on voit bien que les Américains hésitent à aller trop loin. Et donc, ils essayent de trouver une option qu'on pourrait appeler de dissuasion. Évidemment, l'idée, c'est de trouver un compromis avec l'Iran. Biden avait tenter de revenir dans l'accord du nucléaire de 2015. Et au fond, c'est toujours pas fini cette négociation. On en parlait beaucoup dans les mois précédents. Ils n'ont pas éliminé l'idée qu'on peut parler. Et donc, dans la négociation qui est en cours, je crois que entre la libération des otages et le départ du Hamas à Gaza, il y a une option supplémentaire qui est le Hezbollah s'arrêtera aussi. C'est-à-dire que le Hezbollah est devenu une composante de la négociation sur Gaza. Et on pense qu'on pourrait arriver à une forme de, sinon de, d'apaisement, mais du moins de compromis temporaire. Parce que l'autre option, elle est purement militaire, et c'est l'option qui est préférée par Israël, tout simplement parce qu'elle correspond à la vie même d'Israël. Depuis 48, Israël est en mode survie existentielle, et qui implique que toute attaque contre Israël, il faut y répondre. Il faut y répondre, y compris de manière disproportionnée. Il faut taper encore plus fort. C'est ce qui se passe au nord, au Hezbollah, où on a tué des hauts dirigeants. Et donc, les Israéliens sont obligés de se préparer à une attaque fulgurante sur le Hezbollah, avec cette notion de choc et d'effroi pour éviter des répliques trop trop faibles. Cette stratégie, malheureusement pour Israël, est handicapée. C'est ça qu'il faut bien voir. C'est que le 7 octobre a montré qu'Israël n'est plus tout à fait invulnérable. La guerre de Gaza a montré que même avec un ennemi qui est loin d'être aussi puissant que le Hezbollah, Israël n'a pas obtenu une victoire totale, celle qu'elle voulait, la libération des otages et surtout le départ du Hamas et surtout le fait que le Hamas ne peut pas revenir dans Gaza, ce qui est... Alors il est toujours là et il négocie pour être toujours là. Donc on voit bien que tout ça est une préparation par Israël des deux options, l'option militaire et l'option dissuasion un jour avec les Américains.
La question est peut-être utopiste, Daniel, mais quelle est l'option la plus durable dans la région?
Je crois que pour Israël, malgré tout ce qu'on peut lire dans la presse israélienne, qui est évidemment assez offensive, les ennemis parlent de bellicistes, mais c'est pas ça. C'est parce que pour Israël, il n'y a pas tellement de choix. Mais l'option la plus durable est probablement la construction d'un système qu'on a connu en Europe d'équilibre des puissances. Un système de dissuasion mutuelle qui fait que personne n'a intérêt à attaquer l'autre. Et donc pour ça, il faut deux choses. La première, enfin trois choses. La première, il faut que les Américains acceptent de se réengager. Et c'est en cours, on le sent. C'est-à-dire de dire que si Israël était obligé de prendre une option militaire contre les Hezbollah et éventuellement contre l'Iran, l'Amérique serait là. Serait là avec ses porte-avions, avec ses lance-missiles, etc. Peut-être pas avec des soldats, mais certainement avec ses armes et ses armes antimissiles. Ça, c'est la première chose, le réengagement américain. Et évidemment, il est handicapé par la campagne parce que c'est un engagement lourd. Alors qu'aujourd'hui, Biden, il est simplement en train d'expliquer à ses concitoyens qu'il peut diriger l'Amérique demain. Vous voyez, on en est loin. La deuxième composante, c'est de construire un axe de dissuasion face à l'Iran et ses alliés, c'est un axe sunnite de tous les Arabes sunnites alliés à Israël et garantis par les Américains. Et donc la troisième condition, il faut que l'Arabie Saoudite accepte de signer un traité de paix, accepte de signer un traité avec les Américains qui renouvelle l'engagement ancien de Ibn Saoud et de Roosevelt de lier l'Amérique, le sort de l'Amérique et le sort de l'Arabie Saoudite, et de construire donc cet axe sunnite face à l'axe chiite, et qui ferait une forme d'équilibre de la terreur qui ferait qu'il n'y aurait pas de guerre, quoi. C'est ça l'option. Et malheureusement, on a besoin de temps pour construire cette option, et donc ce temps, on les connaît, hein, c'est bientôt le 24 juillet, la visite de Netanyahou à Washington, où il verrait Biden et le Congrès. C'est aussi évidemment l'élection américaine. On voit bien que et les Saoudiens et les Israéliens et les Iraniens attendent de savoir qui sera le prochain président, sachant que pour l'Arabie Saoudite, le grand problème, c'est que tout ce qui vient de se passer, cette guerre médiatique qui a beaucoup détruit l'image d'Israël, qui a suscité une haine anti-juive dans le monde, a réveillé les sentiments très négatifs de toutes les populations arabes et musulmanes dans le monde, et ça rend très difficile pour l'Arabie Saoudite l'option pro-occidentale et l'option de paix avec Israël. Et pour ça, on a besoin de temps. Et il semble bien donc que ce que j'annonce un petit peu à nos auditeurs, c'est que ce qu'on vit aujourd'hui, on va continuer à le vivre encore pas mal de temps, même si c'est pas très très agréable. Et surtout, ça pose la question de la prolongation des otages qui restent prisonniers. On n'en voit pas le bout, sauf miracle qu'on accepterait volontiers, mais qui n'est pas en fuite.
Et nous aurons l'occasion d'en parler dans nos prochaines
Oui.
conversations. Merci beaucoup, Daniel Hébert, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka, et on se retrouve la semaine prochaine.
Et à la semaine prochaine.